Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Je m'appelle Antoine Grégo. Je me considère comme un écolo imparfait et je suis, comme beaucoup, sensible aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer. Comment en savoir plus sur l'écologie facilement ? Je vous propose donc, dans chaque épisode, de découvrir l'histoire de celles et ceux qui agissent pour un monde plus durable. Entrepreneurs, intrapreneurs, activistes, ils agissent avec passion aux quatre coins du monde. En France, bien sûr, mais sur tous les continents, pour nous permettre d'espérer demain un monde plus durable. Quelles sont leurs solutions ? Pourquoi ont-ils décidé de se lancer ? Quels sont leurs conseils pour agir à notre échelle ? Écouter, lire ou s'éduquer sur ces enjeux, c'est déjà agir pour un monde plus durable, car il nous permet d'en parler avec conviction autour de nous. C'est ce que j'espère vous apporter lors de chaque épisode. Si vous souhaitez soutenir ce mouvement, et si vous aimez le podcast ou l'épisode du jour, n'hésitez pas à taguer Demain est durable sur LinkedIn ou sur Instagram, ou à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Iliane Moundib. Comment tu vas, Iliane ?
Ouais, très bien, et toi ? Bonjour Antoine, merci d'être là. Et je suis content de pouvoir participer, du coup merci pour l'invitation.
Merci à toi, je suis très content de pouvoir échanger avec toi après les recommandations notamment de Pierre Gilbert avec qui j'ai fait un épisode notamment sur le géomimétisme il y a quelques temps maintenant. Je vous mettrai le lien en description. Mais aujourd'hui, on va pas parler de géomimétisme, même si on pourrait dévier là-dessus. On va parler aujourd'hui d'adaptation, notamment, et plus particulièrement de comment s'adapter à la crise climatique qui nous tape dessus en ce moment et qui va continuer à nous taper dessus dans les prochaines décennies, quelles que soient les actions qu'on mettra en place. Donc on va parler globalement de ce sujet-là, de l'adaptation, de comment est-ce qu'on s'adapte, quelles sont les conséquences et quelles sont surtout aussi les actions qu'on peut mettre en place, plus ou moins prédictives pour aider à moins subir ces effets-là. Mais avant de parler de tout ça, ça va nous prendre un petit bout de temps, avant de parler de tout ça, je te propose de te présenter, Iliane. Donc, qui es-tu ?
Merci. Alors moi, je m'appelle Iliane Moundib, je suis franco-marocain, j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence en banlieue parisienne, je suis fils de prof, les deux, dans le public. J'ai fait des études d'ingénierie, j'ai fait l'école centrale de Lyon et je me suis passionné, moi, pendant mon cursus sur les questions de physique fondamentale. Donc à la base, je viens pas du tout du milieu du climat, même si avec ces connaissances un peu de sciences physiques générales, j'ai pu un peu toucher au modèle climatique. Et dans ce cadre-là, je suis allé faire un master de sciences physiques à Imperial College à Londres. Et simplement, à la fin de mon cursus, j'ai commencé à rentrer vraiment par le biais d'un certain nombre de cours que j'ai suivis sur la question du changement climatique. Et il y a une autre thématique qui a créé une sorte de prise de conscience dans mon parcours, c'est la question des sans-abri à Londres. Je trouvais ça extrêmement violent, la façon dont ils étaient traités, etc. Et donc la fin de mes études a été un peu, tous les diplômes ont été obtenus, mais chaotique sur le plan, on va dire, mental, puisque je souffrais de comprendre pourquoi personne ne raisonnait, à mon sens, en tout cas dans les structures de pouvoir, rationnellement. Cette question de la rationalité, c'est quelque chose qui m'a pas mal impacté et donc j'ai souhaité revenir en France et essayer de m'impliquer, d'utiliser mes connaissances d'ingénieur pour déployer une analyse et aider en fait à transitionner, parce qu'il faut qu'on transitionne ou bifurquer, ça dépend le mot qu'on utilise. Et du coup, essayer de trouver, aider à trouver des solutions et à mettre un peu plus de rationnel dans la façon dont nous voyons le monde et dans la façon dont nous nous organisons pour l'avenir. Je suis donc allé faire du conseil climat-énergie. Aujourd'hui, je suis indépendant dans cette activité. J'en ai fait pendant 5 ans. Et pendant cette activité, j'ai manipulé, grâce à mes connaissances de sciences physiques, beaucoup les modèles climatiques pour faire des diagnostics de ce qu'on appelle du risque climatique. Je pense qu'on va longuement
Ouais.
revenir sur cette notion-là durant notre entretien, mais en gros, j'allais tripoter ce que faisaient les climatologues, les vrais, et moi, je faisais du bidouille pour bien analyser les résultats. Et donc, je disais à des entreprises ou à des collectivités, bon, bah, les vagues de chaleur vont augmenter de tant de jours en plus, elles vont devenir plus fréquentes, etc. Et du coup, vos caractéristiques de vulnérabilité sont tatata, et donc votre analyse de risque, il faut prioriser telle ou telle action. C'est par ce biais-là que je suis rentré dans la dynamique de l'adaptation. Et par là même, je suis rentré, il y a un moment, depuis sa création, dans un think tank qui s'appelle l'Institut Rousseau. L'Institut Rousseau, c'est un laboratoire d'idées qui essaye de organiser, on va dire, la reconstruction écologique de la France, en tout cas qui essaye de relancer la dynamique qu'on a dans notre pays par la transition écologique, c'est-à-dire en faisant des investissements importants et puis en essayant de réfléchir collectivement sur les modalités de politique publique qui pourraient nous permettre de transitionner et de bifurquer. Dans ce cadre-là, j'ai écrit une note sur l'adaptation au changement climatique, un bon truc, en tout cas il est assez long, et je me suis du coup, entre les deux, à la fois professionnellement et à la fois dans le débat public, j'ai essayé de me positionner, ou en tout cas de donner un avis original sur cette question de l'adaptation au changement climatique, qui est encore une fois, pour moi, aujourd'hui, encore trop considéré comme technocratique et un sujet pas assez politisé au bon sens du terme. C'est-à-dire que moi, je trouve que l'adaptation, notamment dans les colloques qui sont faits par le ministère de la Transition écologique, monsieur et Christophe Béchu, le colloque qui s'appelait « Vivre dans une France à 4 degrés » est quand même extrêmement préoccupant comme titre. Je suis d'accord avec lui qu'il va falloir en fait se passer sur un scénario au moins business as usual, voire pessimiste sur les effets du changement climatique. Mais je trouve que la façon de présenter cette thématique-là suggère un peu qu'on puisse s'adapter à tout et qu'on puisse, en fait, sans regret, au final, préparer une France à 4 degrés, alors qu'en fait, dans une France à 4 degrés, il y a énormément de choses qu'on maîtrise pas. Je sais même pas, en fait, si c'est possible d'avoir une France à 4 degrés, puisque si tu dépasses un certain nombre de points de bascule, ces points de bascule vont, en fait, entraîner une augmentation plus importante du réchauffement, et donc, ça se trouve, on s'arrêtera pas à 4 degrés. Voilà pour les éléments. Je suis aussi devenu professeur pour une plateforme qui s'appelle Sator, où je propose un cours de 10 heures sur l'adaptation au changement climatique. Et j'essaye de publier régulièrement aussi pour l'Institut Rousseau. Il y a une note récente qui est sortie sur la question de la sobriété hydrique, c'est-à-dire comment on peut institutionnaliser le fait de moins prélever d'eau, ou en tout cas de prélever suffisamment peu, pour que la ressource puisse se reconstituer dans un contexte où elle se raréfie du fait des effets du changement climatique et de nos usages de la ressource. Voilà pour la présentation un peu en longueur.
Trop bien. Alors, du coup, tu as parlé pas mal de termes que je vais te demander de définir un peu. D'abord, sur l'adaptation, tu parlais aussi de risque climatique, on en parlera par la suite. Sur l'adaptation, est-ce que tu peux nous redéfinir un peu ce sujet-là? Qu'est-ce que c'est concrètement? Pourquoi est-ce qu'on parle autant d'adaptation en ce moment?
Ouais. Alors, je vais essayer de reformuler, si tu veux, la problématique climat-énergie dans le langage du risque climatique. Risque climatique, c'est quoi? C'est un impact futur du changement climatique sur un système donné. Un système donné, ça peut être par exemple la ville de Paris, ça peut être une entreprise, ça peut être votre maison, ça peut être votre santé, ça peut être n'importe quoi. Pour analyser ce risque climatique et donc le niveau de risque et le niveau de danger en fait auquel est soumis ce système-là, on a besoin de trois composantes. La première composante, c'est ce qu'on appelle les aléas climatiques. Donc, la définition un peu classique, c'est toujours de rappeler que météo et climat ne sont pas identiques. Et en fait, le climat, c'est un ensemble de composantes météorologiques. C'est à un endroit donné, la température, la vitesse du vent, le niveau d'humidité, etc., etc. Et en fait, tout ça, ce sont des aléas climatiques. Ces aléas climatiques, ils vont être affectés par le changement climatique lui-même. Le changement climatique, il va en fait capturer de la chaleur dans l'atmosphère du fait de la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cette chaleur va augmenter la température. Mais ça ne va pas avoir que cela comme conséquence. Vu qu'on augmente la température, on augmente par exemple l'évaporation des cours d'eau ou de la mer, ce qui fait qu'on augmente dans certaines régions les précipitations. on change aussi le schéma de précipitation, puisque les nuages vont se former à des endroits différents, vont avoir plus de masse, et s'ils vont avoir plus de masse, ils vont pas être poussés au même endroit par les vents, etc. On change également l'évaporation, pas uniquement des cours d'eau, mais aussi des sols, de l'eau qui est contenue, c'est l'eau verte. Et donc, tu augmentes avec le changement climatique aussi, en théorie, en tout cas sur certaines régions, la sécheresse des sols. Et de fait, tout cela va modifier un certain nombre d'aléas climatiques. Donc ça, c'est simplement de la physique du climat. Ensuite, on rentre dans notre analyse de système. Notre système va être exposé ou pas à un aléa climatique donné. L'exposition est une notion géographique. C'est-à-dire que je vais caractériser mon exposition aux vagues de chaleur selon ma localisation géographique. Je ne vais pas avoir une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur équivalent au Groenland et en France. D'accord ? Donc ça, on est encore sur une notion qui est liée à la physique atmosphérique. On fait tourner des modèles climatiques pour savoir, eh ben, en 2050, 2070, ou sur une période de 30 ans en général, eh ben, de combien de jours de vagues de chaleur sur une localisation géographique donnée, l'aléa climatique va augmenter. Un aléa climatique, même si c'est plus 100% climatique, mais l'élévation du niveau de la mer aussi. Et la dernière caractéristique qu'on met en cause, c'est la question de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est les caractéristiques intrinsèques de système qui vont faire que le risque va se matérialiser de façon plus ou moins forte. Un exemple de caractéristique de vulnérabilité, par exemple, pour la ville de Paris, eh ben, c'est par exemple l'âge de la population. C'est-à-dire, bah, les populations les plus vulnérables aux effets des vagues de chaleur vont être les populations les plus âgées ou les plus fragiles. Une des populations auxquelles dont on parle jamais dans les vagues de chaleur, c'est les sans-abri. Les sans-abri, c'est extrêmement difficile de subir des vagues de chaleur. C'est encore pire qu'en hiver, souvent, puisque bah tu as des défis, tu ne peux pas t'abriter. Et il y a des difficultés aussi d'accéder à l'eau. À Paris, on a pas mal de fontaines publiques, mais dans plein d'autres villes, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir accès à l'eau ou des, ouais, des douches, etc. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, si on replace l'action climatique dedans, on a deux façons de réduire l'impact du changement climatique. La première, et elle est fondamentale, et c'est, elle doit être première, c'est l'atténuation du changement climatique. Alors ça, bah, je pense que tu en as parlé très largement dans tes podcasts, c'est comment on limite les émissions de gaz à effet de serre, comment on tient les budgets carbone du GIEC, comment on reste sous le 2 degrés au pire, parce que, en fait, une fois si tu dépasses le 2 degrés, tu as un certain nombre de points de bascule qu'on ne sait pas situer et qui pourraient déclencher un emballement climatique. C'est la question du permafrost, c'est la question de la circulation thermohaline ou ce genre de choses. Donc, cette question de l'atténuation, en fait, elle va jouer sur les aléas. Plus on va réussir à limiter les effets du changement climatique, moins on devra s'adapter à quelque chose de différent de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, dans ce cadre-là, l'adaptation, elle va jouer sur les aléas. Moi, dans des définitions un petit peu plus opérationnelles, je dis qu'elle joue sur l'exposition parce que je quantifie l'exposition en termes de nombre de jours de vagues de chaleur en plus sur une localisation donnée. Dans le langage des entreprises, on marche un peu plus comme ça parce que c'est plus opérationnel. L'aléa est simplement, en fait, une donnée. On va analyser les vagues de chaleur sur tel système. L'exposition, ça va être le nombre de jours de vagues de chaleur en plus. Et les vulnérabilités, ça va devenir une catégorie fourre-tout où on donne toutes les caractéristiques de l'entreprise ou du système qui vont exacerber l'effet du risque, comme par exemple l'effet îlot de chaleur urbain. Et de fait, l'adaptation, dans ce cadre-là, elle peut jouer sur deux choses, la vulnérabilité ou l'exposition. L'exposition, ça va être le changement de localisation géographique, d'accord ? C'est assez peu commun sur certains systèmes, et c'est le cas, par exemple, sur l'élévation du niveau de la mer. Et l'adaptation, elle va essayer de limiter la vulnérabilité du système. Elle va essayer, du coup, bah, par exemple, de rafraîchir les îles d'autres façons, en les végétalisant. Elle va essayer de préparer notre tissu urbain à des précipitations plus intenses, à des inondations, en le rendant perméable. C'est la question de la ville éponge, etc. Et donc, l'action climatique, reformulée dans le langage du risque, elle a deux caractéristiques. Elle a une caractéristique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'atténuation. Et une caractéristique d'adaptation à son conséquence, c'est l'adaptation. Et si on articule tout ça et qu'on peut donner un troisième terme, mais on va pas essayer de surcharger conceptuellement cet entretien, c'est la résilience. La résilience, pour moi, c'est la conjonction des deux. Notre résilience climatique, c'est s'adapter et atténuer. Un dernier petit élément aussi extrêmement important pour l'adaptation, c'est qu'on n'a pas le choix. Le changement climatique a une caractéristique fondamentale, c'est qu'il est irréversible. Irréversible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, on arrête tous d'émettre des gaz à effet de serre, eh ben, les conditions de température, d'humidité, etc. de l'année 2022, 2023, 2024 sont en quelque sorte la nouvelle norme. Le changement climatique ne revient pas en arrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura arrêté nos émissions de gaz à effet de serre, on aura arrêté la dérive, mais on aura arrêté la dérive à, je sais plus, en France, on est déjà à 1,7 degré à peu près, ou 1,9, je sais jamais sur ces données-là, 1,7 disons, eh ben, on gardera 1,7. On va pas faire moins 1,7 dans l'affaire. Après, il y a toutes les solutions, effectivement, que peut-être Pierre a pu développer, de géomimétisme, qui permettent un peu de refroidir en rajoutant de la séquestration carbone, en rajoutant des puits carbone, etc. Mais voilà pour à peu près la reformulation et ce que c'est l'adaptation. Donc elle est nécessaire, on n'a pas de choix. Plus on atténuera, moins on aura à en faire, mais on va forcément devoir en faire. Si on veut un peu un exemple, bah l'été 2022, en fait, c'est la nouvelle norme. Avec ces conditions de sécheresse, d'humidité ou les inondations du Pas-de-Calais, on va être confronté, même si on arrive à avoir une action climatique complètement bouleversée demain et qu'on tient nos objectifs, bah on va quand même devoir gérer des inondations plus importantes dans le Pas-de-Calais, des étés avec une ressource en eau qui est raréfiée et tout ce genre de... Et puis des canicules très importantes en été. Et plus on ira loin, plus ça sera difficile à gérer.
Comment est-ce qu'on fait pour, concrètement, avant de parler justement de ces différents aléas, les expositions en France et la vulnérabilité plus concrètement sur certains systèmes, tu parlais juste avant justement de ces risques climatiques-là, de la manière dont tu pouvais les conceptualiser ou en tout cas tu pouvais retranscrire à une entreprise ou à une région, etc. Comment est-ce qu'on fait concrètement quand on est un territoire pour savoir si on est exposé ou pas, vulnérable ou pas, par rapport à tel ou tel aléa climatique?
Ouais. On est exposé à tout, d'accord? Puisque tous les aléas climatiques vont être modifiés par le changement climatique, plus ou moins, à part peut-être, et encore, ça c'est des questions de très compliquées de climatologue, et il n'y a pas d'accord, les vents. Donc les vents, il y a beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas vraiment les effets du changement climatique précisément sur les schémas de vent et la circulation. Ou bien si vous en avez dans les commentaires, moi je serais très ravi d'avoir des études là-dessus. En fait, quand on est un territoire, on va faire une analyse où on va choisir un certain nombre d'aléas climatiques qui nous semblent pertinents. Je peux les citer. Grosso modo, le nombre de jours de vagues de chaleur, parce que ça, c'est pour tout le monde. Les précipitations extrêmes, d'accord. Le niveau les projections d'inondations aussi. C'est assez simple hein, de passer de projets, enfin simple conceptuellement, c'est beaucoup plus difficile scientifiquement, de passer de précipitations importantes à un niveau d'inondation. Il y a trois types d'inondations. Les inondations par ruissellement, donc on verse un seau d'eau, c'est nos précipitations. Et puis l'eau va dégringoler sur les endroits qui sont le plus perméables et à la topographie la plus basse. Et donc ce sera la topographie la plus basse qui sera menacée. Ensuite, on a un deuxième type d'inondation, c'est les inondations par gonflement. C'est-à-dire vous avez un excès d'eau, soit du ciel, soit parce que on a une crue des fleuves ou des cours d'eau. Et donc en fait, toutes les zones aux alentours de ce cours d'eau peuvent être inondées. Et tu as des caractéristiques qui vont renforcer les effets de cette inondation. C'est notamment l'artificialisation des abords des cours d'eau qui empêche, qui fait en fait comme une hémorragie sanguine, c'est-à-dire il y a rien pour absorber autour, donc quand ça déborde, ça ruisselle ensuite et c'est un peu difficile. Et la dernière typologie d'inondation qu'on peut avoir, c'est les inondations par remontée d'eau des nappes, c'est-à-dire quand les nappes sont pleines, l'eau finit par remonter et donc vous pouvez avoir des inondations dans ce cadre-là. Autre aléa climatique qui est possible de prendre en compte, mais ça du coup ça dépendra, c'est la question de la sécheresse. La sécheresse peut être modélisée par un niveau d'humidité des sols ou par un indicateur qu'on va appeler, qui est pas un indicateur 100% climatique, qui est l'indicateur de stress hydrique. Le stress hydrique, c'est un rapport entre la disponibilité d'une ressource en eau sur un endroit, une surface géographique, donc un certain nombre de mètres carrés de territoire, et les consommations de ce territoire en termes d'eau. L'eau, ça c'est très important à comprendre, c'est une ressource locale. L'eau de votre robinet, par exemple si on est en Île-de-France, elle est pompée dans la région Île-de-France. D'accord. Et ensuite, quand elle part par vos toilettes, etc. En fait, elle est retraitée et puis relancée ensuite dans les fleuves d'Île-de-France ou dans des endroits, en tout cas à proximité. L'eau est une ressource locale. C'est pour ça que quand vous avez une sécheresse très forte, vous pouvez avoir plus d'eau au robinet et vous devez du coup ravitailler un certain nombre de territoires avec de l'eau en bouteille. Ça, ça s'appelle de l'adaptation réactive pure, c'est-à-dire on n'a pas réfléchi avant et donc on répond à la catastrophe parce qu'il faut bien que les gens puissent au moins avoir de l'eau pour boire ou pour cuisiner et pour éventuellement se laver. Les autres indicateurs, ensuite, vont dépendre de la du territoire en lui-même. Un indicateur important, c'est l'élévation du niveau de la mer pour les territoires littoraux, c'est-à-dire revoir en fait le zonage des zones qui vont être potentiellement impactées par cette élévation du niveau de la mer. Pour les territoires de montagne, ça va être aussi la question de l'enneigement, d'accord ? Donc des usages aussi qui sont faits de la montagne, la diminution du niveau d'enneigement, etc. Pour les territoires de forêt, on va en avoir plusieurs. On va avoir des indicateurs un peu compliqués là, de santé forestière, c'est-à-dire pour une essence, dans telle condition climatique, est-ce qu'elle survit ? Ça, c'est extrêmement compliqué parce que les modèles, on fait pas que du climat, là, on fait de la biologie, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué à modéliser. Et puis les feux de forêt. Les départs de feu, qui sont une conjonction de plusieurs indicateurs, des vagues de chaleur, de la sécheresse et certaines intensités de vent qui vont transporter ces éléments-là. Et ensuite, selon le territoire, on prend nos trois indicateurs chaleur, précipitation, sécheresse, et ensuite, pour certains territoires spécifiques, on rajoute des indicateurs. On utilise la science du climat, les modèles climatiques pour savoir de combien de jours les vagues de chaleur vont augmenter ou quelles zones sont exposées à des inondations importantes. Et ensuite, on liste un certain nombre de caractéristiques de vulnérabilité ou d'exposition. Ces caractéristiques, ça va être souvent des caractéristiques d'aménagement du territoire. La première caractéristique qu'on retrouve dans quasi toutes les analyses de vulnérabilité de risque climatique, c'est l'artificialisation des sols. Pourquoi ? Parce qu'un sol artificialisé va avoir une caractéristique déjà sur les inondations de ruisseler, donc rendre le risque d'inondation beaucoup plus matériel. Il va avoir du coup, vu qu'il a une caractéristique de ruisseler, il appauvrit les sols en dessous, qui peuvent pas absorber d'eau, et surtout c'est des sols qui ne sont pas vivants, et des sols qui ne sont pas vivants sont incapables de retenir de l'eau, d'accord ? Ou beaucoup moins. Et ensuite, dans les villes en particulier, les surfaces artificialisées, particulièrement noires, sont des surfaces qui vont générer un phénomène qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain, qui est simplement le fait qu'en fait, quand vous avez une surface noire, il n'y a rien qui réfléchit, tout est absorbé, et si tout est absorbé, l'énergie lumineuse devient de la chaleur. De ce fait-là, en ville, vous pouvez avoir des différentiels de température de quasi 10 degrés, entre la température à une altitude plus forte ou par rapport à la forêt de Fontainebleau, par exemple, dans Paris, et donc avoir une caractéristique d'exposition ou de vulnérabilité, encore une fois, ça dépend des définitions qu'on utilise, plus importante. Et donc, en fait, toute l'idée pour un territoire, ça va être d'utiliser la science du climat pour avoir les chiffres précis des effets des aléas climatiques et donc caractériser l'exposition à ces aléas et ensuite faire une liste des catégories de vulnérabilité. Et ces vulnérabilités, on peut plus ou moins les quantifier. On essaye de les mettre dans une échelle de quantification. Et ensuite, une fois ce diagnostic de risque établi, qui est un travail assez long, mais qui est un travail qui se fait très bien, on essaye de proposer des mesures d'adaptation qu'on va quantifier pour limiter les facteurs de vulnérabilité, c'est-à-dire ou d'exposition, c'est-à-dire désimperméabiliser un maximum de sol en ville pour par exemple l'aléa élévation du niveau de la mer, vous allez revoir le zonage où on va essayer d'utiliser des solutions fondées sur la nature, les mangroves, les cordons dunaires, renaturer l'hydrologie des cours d'eau, ou en tout cas les abords des cours d'eau, pour quand le risque se matérialise, on ait en fait des écosystèmes qui viennent canaliser les vagues pour l'élévation du niveau de la mer, ou canaliser les crues lorsque les cours d'eau sont impactés. Voilà.
Donc c'est... Concrètement, quand on regarde, tu parlais juste avant des mesures un peu de vivre en France ou sous plus 4 degrés par exemple. En effet, c'est sur des extrêmes assez élevés, même si en effet il faut rester alerte sur le fait qu'en effet ça peut potentiellement arriver hein, par rapport à ce que tu disais aux différents points de bascule. Comment est-ce qu'on est actuellement, avant de parler des exemples que tu as commencé à amorcer sur voilà les villes, etc. Mais comment est-ce qu'on est, question peut-être voilà, très frontale, est-ce qu'on est prêt actuellement à se dire, même déjà maintenant, est-ce qu'on est prêt à du plus de degrés, ce qui va arriver en France, en tout cas, hein, sans parler mondial, mais en France, ce qui va arriver d'ici peu, est-ce qu'on est prêt déjà pour ça, avant de se dire, est-ce qu'on est prêt pour du plus 4, plus 3, etc.
Bon, en général, quand on se pose ce genre de questions dans ce podcast, je sais pas si tu as eu beaucoup de réponses positives. Bien entendu qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt parce qu'on le voit dès maintenant, au final. L'adaptation, c'est un sujet qui a mis beaucoup, beaucoup de temps à venir sur le devant de la scène. Parce que il y avait un peu ce prisme-là qui a été bon, bah on met le paquet sur l'atténuation, ou en tout cas soit dans les discours militants ou dans même les politiques. Et donc bah vu qu'on va réduire chez nous, on aura moins de risques chez nous. Sauf que ça marche pas du tout comme ça. On est toujours à peu près 1% ou 2-3% sur les émissions historiques mondiales, et donc même si nous on tient notre trajectoire, et ben on est dépendant de la trajectoire des autres, et le changement, les risques climatiques ne sont pas proportionnels à nos émissions à nous. Donc de ce fait là l'adaptation, elle est absolument fondamentale, et malheureusement elle a mis beaucoup de temps à être enclenchée. Si elle a mis beaucoup de temps à être enclenchée, ça veut dire qu'au final on a encore rien de vraiment solide sur cette question. La bonne nouvelle quand même, parce qu'il faut pas être noir, c'est que ce sujet est quand même pris de plus en plus au sérieux par le ministère de l'écologie, même si bon, il y a des communications qui peuvent être un peu ennuyeuses, ou que on dessine des choses qui nous plaisent pas trop sur peut-être l'abandon de l'atténuation, ou en tout cas une réduction de la part de l'atténuation dans les messages qui sont donnés par le ministère. C'est en train d'être utilisé. L'adaptation, dans ce cadre-là, elle est plutôt, on va dire, technocratique. Dans le sens où, par exemple, il y a quelque chose de fondamental qui va sûrement arriver dans la troisième version du plan national d'adaptation au changement climatique, qui va arriver, je crois, en juin. Il est bloqué au ministère, de ce qu'on m'a expliqué. C'est qu'il va falloir revoir, par exemple, pour toutes nos infrastructures, les normes de dimensionnement sur les nouvelles conditions climatiques. Je m'explique, si vous faites un pont, une route, etc., bah vous la dimensionnez pour qu'elle tienne aux événements climatiques les plus impactants. Par exemple, sur une route, le niveau de sécheresse qui peut la faire craquer sur le retrait gonflement des argiles, ou le niveau des vagues de chaleur qui peut la faire fluer. D'accord. Et bien entendu, bah dans le passé, ces infrastructures, elles étaient constituées sur des conditions climatiques passées, c'est-à-dire qu'on prenait les 30 dernières années, on regardait le pire événement possible grosso modo, ou le 95e centile de la distribution statistique, et puis on dimensionnait pour que ça tienne cette partie-là. Sauf qu'avec le changement climatique, tout change, et donc toutes nos infrastructures, dimensionner nos infrastructures sur les conditions passées, ça a absolument aucun sens. Et donc de fait, là, on va avoir normalement dans le plan national d'adaptation une déconsidération pour toutes les nouvelles infrastructures, les dimensionner sur le climat futur. Et donc là, ça génère de l'incertitude, parce qu'il faut voir sur quel scénario on se place. Mais bon, en étant assez conservateur, c'est quelque chose qui est faisable. Donc toutes nos infrastructures actuellement ne sont pas préparées. Il va falloir les préparer, voir si elles sont viables, d'accord, sous changement climatique. Il y a certaines qui tiennent beaucoup moins, probablement. Mais en tout cas, c'est un travail de titan de bien faire le tour de toutes les infrastructures et de voir si elles sont viables. Donc ça, c'est plutôt les modalités de l'adaptation technocratique. Et puis, sur l'adaptation, on va dire, plus systémique, bah il va y avoir des statu quo qui vont plus être viables. Par exemple, les batailles pour la ressource en eau, il va falloir qu'on trouve un cadre institutionnel. C'est ce qu'on propose à l'Institut Rousseau, hein, de proposer une institutionnalisation de la sobriété hydrique pour organiser le partage de l'eau. Parce que avant, on vivait dans une forme de, on va dire, relative abondance de l'eau, ce qui veut dire que, par exemple, pour la production agricole de maïs ou pour le refroidissement d'un certain nombre de, enfin, pour le refroidissement de notre parc nucléaire ou pour l'hydroélectricité, à peu près, on pouvait prendre à peu près toute l'eau qu'on veut. Là, vu qu'on va avoir une accélération du cycle de l'eau du fait du changement climatique, la ressource va être moins disponible. Et dans un cadre où la ressource est moins disponible et où on connaît des pénuries, c'est impossible de laisser certains acteurs s'accaparer cette question de l'eau. Et donc là, il y a des réformes institutionnelles à mener, organiser le partage, avoir des institutions qui permettent de l'organiser équitablement, démocratiquement. Et voilà pour ces éléments un petit peu. il y a plusieurs typologies d'adaptation, vraiment quelque chose d'assez techno et quelque chose d'assez systémique qui remet en cause le statu quo et qui, pour moi, va dans le sens aussi de la bifurcation qu'on doit opérer pour être plus résilient ensemble en tant que société. Il y a vraiment ces deux aspects-là. Pour moi, là, le seul aspect qui commence un peu à être traité par le ministère, c'est plutôt cette forme d'adaptation technocratique, mais il en manque encore tout un bout et il faut aller plus vite aussi sur cette adaptation techno.
Sur sur la France plus particulièrement, par rapport aux différentes, est-ce qu'il y a des zones qui sont plus, disons, vulnérables que d'autres? Enfin, au début j'allais poser la question, est-ce qu'on est vulnérable en France? La réponse est oui, mais la question est de savoir sur quoi concrètement. Est-ce qu'il y a des zones qui sont plus vulnérables que d'autres, et surtout quels sont les systèmes qui sont les plus vulnérables dans ces, disons, j'imagine, je sais pas, je donne l'exemple par exemple d'une ville. On avait fait un échange avec Alexandre Florentin, donc sur Paris, Paris à 50 degrés. À l'époque, je vous remettrai le lien aussi. Est-ce que, bon, j'imagine que les villes sont impactées, mais est-ce qu'il y a d'autres types de régions, je sais pas, les industries, l'agriculture, etc., sur lesquelles il faut vraiment comprendre l'impact du changement climatique sur ces différents systèmes?
Ouais. Je vais peut-être te donner quatre exemples, si tu veux, pour de choses aussi qui sont un peu moins classiques. Oh. C'est certains territoires, notamment nos territoires, nos forêts, nos montagnes, nos outre-mer et nos littoraux.
Ouais.
Ils vont être touchés en fait par le changement climatique de façon beaucoup plus importante que d'autres typologies de territoires, parce que ils ont des caractéristiques de vulnérabilité particulières, notamment du fait de leur organisation. Un chiffre hyper important, on va commencer par les forêts.
Quand tu parles de leur organisation, ça veut dire quoi? Quand tu dis leur organisation?
Je vais donner des exemples.
Ouais.
C'est par exemple l'usage de la montagne qui est très très canalisé sur une seule forme d'industrie hyper dépendante du niveau d'enneigement, c'est le ski du coup, alors qu'on va avoir moins d'enneigement et du coup tu as des modalités de maladaptation, les canons à neige. Mais par exemple sur la question des forêts, en France, c'est assez dramatique parce que la santé de nos forêts se dégrade rapidement, la faute à un changement climatique qui va en fait beaucoup trop vite pour les écosystèmes. Nous, en tant qu'humains, humaines, on arrive à avoir de l'adaptation réactive tout de suite ou de s'organiser un peu différemment. Les écosystèmes n'ont pas ce choix-là. Les écosystèmes, ils sont, on va dire, si on fait un parallèle très maladroit avec les infrastructures, c'est pareil. Ils sont dimensionnés sur les conditions climatiques passées, en tout cas pour y vivre. Et donc, quand les conditions climatiques changent, il y a un certain nombre d'écosystèmes qui vont mourir ou qui ne pourront pas s'adapter. Il faut savoir, par exemple, et c'est un chiffre très important, c'est qu'en une dizaine d'années, la capacité des forêts françaises à absorber du carbone a été divisée par deux. En fait, ça veut dire que la mortalité forestière a doublé en 10 ans en France. Pourquoi? Parce que les conditions climatiques ont changé de façon très importante et que aussi on a la question des déplacements de ravageurs. En fait, avec le changement climatique, vous avez des ravageurs qui vont remonter et donc des écosystèmes forestiers qui sont pas habitués à aller à rencontrer ces ravageurs-là. Et donc, quand il y a le contact entre les deux, et ça peut décimer des pans entiers, des essences entières dans nos forêts. Donc, les forêts françaises sont, par exemple, un écosystème extrêmement vulnérable au changement climatique. Il y a aussi une forme d'utilisation de la forêt française qui ressemble un peu à ce qu'on connaît en agriculture, qui la rend encore plus vulnérable. C'est la question des monocultures. Par exemple, en France, du fait de la mondialisation, pour l'agriculture, on s'est mis à être hyper spécialisé sur un type de production ou sur un petit nombre de types de production, par exemple le maïs. Ces productions sont homogènes génétiquement, ce qui fait que quand un ravageur passe, il ravage tout. Alors que quand vous avez une production qui est plus diverse génétiquement ou qui met plus différentes essences, le ravageur, il peut pas sauter d'un point à un autre. Ces caractéristiques d'homogénéité, elles permettent des rendements très importants, par exemple pour le maïs, dans le cadre des conditions climatiques stables, mais quand c'est plus stable, c'est la catastrophe. Sur les forêts françaises, on est à un tournant, puisqu'en fait, il y a une modalité de plus en plus importante de considérer la forêt française comme une ressource en bois, et donc d'utiliser un certain nombre d'essences, comme le pin douglas, mettre la même essence partout, pour faire des coupes rases ensuite et alimenter l'industrie du bois, et donc en fait avoir des forêts qui vont être encore plus vulnérables aux ravageurs ou aux conditions climatiques. Voilà. On pourrait pourrait revenir beaucoup plus longuement sur cette question de la forêt, mais je vais essayer de passer, pour donner, passer mes quatre exemples, passer sur la montagne. La montagne, il y a quelque chose de très important à connaître, c'est qu'en fait, le changement climatique, il va deux fois plus vite dans les territoires de montagne que dans les territoires plus classiques. En fait, dans les montagnes, on a quasi déjà dépassé le 2 degrés. D'accord. Et en fait, il y a un chiffre qui est important, c'est que pour un degré supplémentaire, c'est un moins d'enneigement en moins à 1500 mètres d'altitude. On estime par exemple aussi qu'en 2100, entre 70% et 90% des glaciers devraient disparaître. Et du coup, de ce fait, en plus, ces territoires de montagne, ils sont hyper dépendants d'une activité qui dépend de la neige, c'est le ski. Et l'industrie du ski, c'est en fait une des meilleures élèves de la classe pour la maladaptation. Parce que elle va nécessiter la construction de beaucoup, beaucoup d'habitats touristiques et donc d'artificialisation des sols dans ces territoires de montagne. Et puis, cette industrie du ski, elle va avoir recours à des mégabassines. Ces mégabassines, c'est les canons à neige. C'est exactement le même principe. On fait des réserves d'eau accaparées. Et ces réserves d'eau, ensuite, on va les utiliser pour enneiger les zones où on a un enneigement pas suffisant pour skier. Et donc, pour ces territoires de montagne, il va falloir qu'on se débrouille pour dépolariser fortement ces économies du ski, les reconvertir, adapter l'aménagement du territoire, sanctuariser aussi la ressource en eau et améliorer l'autonomie alimentaire. Troisième typologie de territoire, c'est les territoires littoraux. Les territoires littoraux sont face à l'aléa climatique, à l'aléa le plus compliqué, je pense, c'est l'aléa d'élévation du niveau de la mer. Pourquoi ? Parce que l'élévation du niveau de la mer, c'est une dynamique qui est irréversible, c'est-à-dire on va avoir un niveau de la mer qui va s'élever même pour encore plusieurs siècles du fait de dynamiques, notamment le fait que l'eau chaude elle passe en dessous dans la circulation et donc en fait la dilatation thermique va se propager et puis la fonte d'un certain nombre de glaciers et de ce type d'écosystème qui en fait ont des niveaux de seuil et donc une fois qu'ils sont déclenchés, bah ils vont fondre jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et donc l'élévation du niveau de la mer est alimentée. Et à côté de ça, on a une dynamique complètement contraire à la résilience, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de concentration d'habitation sur ces zones littorales. Parce que bah, nos villes sont constituées sur les littoraux et parce qu'il y a aussi une industrie touristique qui a besoin de forte affluence sur ces littoraux. Et donc en fait, c'est des territoires qui sont particulièrement sensibles parce que avec l'élévation du niveau de la mer, on aura des intrusions marines plus importantes, des submersions plus importantes. Ces submersions, elles peuvent mettre en danger les populations, mais elles peuvent aussi avoir des conséquences sur l'autonomie alimentaire et l'autonomie hydrique de ces régions. Notamment, bah, quand l'eau de mer rentre dans les terres, elle salinise les sols et les ressources d'eau de surface, mais surtout d'eau souterraine. Et donc, ça devient impropre à l'agriculture. Et également, il y a des questions très très prégnantes sur l'habitabilité de ces territoires et le fait de rajouter soit des digues qui sont la solution de maladaptation quasi par excellence et même des écosystèmes qui permettent de réduire les vagues. Le problème, c'est que la dynamique d'élévation du niveau de la mer, elle est engrammée pour un certain nombre d'années. Et également, l'élévation du niveau de la mer marche par seuil, ce qui veut dire que aujourd'hui, on se prépare à environ une élévation du niveau de la mer à la fin du siècle de 1 mètre. Ça peut aller très vite à 1,50 m, 2 mètres, à cause de dynamiques non linéaires sur lesquelles je peux revenir, mais je pense que c'est un peu long à expliquer. Mais par exemple, nos voisins hollandais, belges ou anglais se préparent à des niveaux d'élévation de la mer de plus de 2 mètres parce qu'il y a des scénarios que le GIEC appelle peu probable, mais à fort impact, qui peuvent mener à ce type d'élévation. Notamment si on dépasse un certain nombre de seuils. Plus on ira loin dans le chemin, plus on aura de chance de dépasser ces seuils-là, que les scientifiques ont beaucoup de mal à positionner correctement. De même, et pour terminer sur le quatrième exemple, les territoires d'outre-mer sont particulièrement vulnérables. parce que ce sont les territoires les plus pauvres de France, d'accord ? Et ce sont des territoires où, en fait, on a aussi énormément de populations qui vivent sur les littoraux. Et du coup, ils sont menacés par l'élévation du niveau de la mer, mais c'est aussi des territoires qui sont en zone cyclonique, et le changement climatique va avoir pour conséquence d'augmenter au moins de ce qu'on connaît l'intensité de ces cyclones. Les cyclones, ça marche comment? C'est simplement une évaporation d'eau de mer dans un parce qu'elle est trop chaude, et ensuite du coup une accumulation de vapeur d'eau à un endroit, et ensuite le vent qui va la pousser d'un côté, et donc avec le changement climatique vous augmentez l'évaporation et donc vous augmentez en théorie l'intensité de ces cyclones. Il y a une caractéristique de vulnérabilité fondamentale de ces territoires d'outre-mer en plus de la pauvreté, mais ça va avec, c'est le mal logement. Vu qu'on est dans des territoires très pauvres, il y a beaucoup d'habitats qu'on appelle informels. Il y a environ, est-ce que j'ai le chiffre sous les yeux, 20% je crois des habitations en Outre-mer qui vivent avec un toit percé. Et donc, bah, vous imaginez bien que dans le cadre d'événements climatiques extrêmes, c'est extrêmement, les conséquences sont très graves. Ces habitats informels aussi, ils participent à l'artificialisation des sols dans des territoires qui sont les plus riches en biodiversité. Et il y a une dépendance très forte à deux choses, le tourisme et l'importation de produits agricoles. Même chose, événements climatiques extrêmes ou élévation du niveau de la mer égale salinisation des ressources, salinisation des champs, etc. Et puis remise en question aussi des capacités d'échange, donc les routes maritimes, par la submersion des ports, etc. Et donc une autonomie alimentaire qui devient de plus en plus précaire. Donc voilà, c'est les quatre territoires que je voulais donner un peu comme exemple de territoires particulièrement vulnérables au changement climatique. Mais ensuite, tous les territoires en fait sont concernés à divers degrés. L'idée, c'est toujours de bien prioriser les aléas les plus matériels et avoir une description précise sur chaque aléa.
Tu parlais rapidement juste avant de maladaptation et d'adaptation réactive, je crois que c'est ça le terme. Tu faisais la différence entre les digues qui sont une maladaptation et d'autres types d'actions qui sont des adaptations réactives. Moi, à première vue, je dirais que les digues auraient été une adaptation réactive, mais du coup, tu considères pas ça comme une adaptation réactive. Pour quelle raison? Comment est-ce que tu fais la distinction entre les deux? Et comment est-ce que tu... Je dis pas que l'adaptation réactive, c'est quelque chose de bien, mais c'est mieux, disons, que la maladaptation. Comment est-ce que tu distingues un peu ces deux-là?
Alors, on va rentrer dans les joyeusetés de l'adaptation, c'est-à-dire les multiples définitions où personne n'est d'accord. Les définitions du Haut Conseil pour le Climat, je vais en donner quatre. C'est les types d'adaptation. Adaptation réactive, adaptation incrémentale, adaptation systémique et adaptation transformationnelle. Alors, adaptation réactive, c'est on a un aléa qu'on n'a pas prévu, on s'adapte tout de suite. D'accord. Ça peut être du coup de distribuer des bouteilles d'eau en territoire parce qu'il y a plus d'eau. Ça peut être allumer la clim parce qu'on a trop chaud chez nous. Ça peut être mettre une digue parce que il y a des gens qui habitent quand même et donc il faudrait peut-être les protéger. Cette adaptation réactive, elle change pas du tout la structure du système, dans aucun point. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'adaptation incrémentale. L'adaptation incrémentale, elle marche par incrément d'adaptation réactive, ok? Donc, une adaptation incrémentale, c'est prendre plein de mesures réactives pour plein d'acteurs sans les coordonner, et donc ça permet de limiter l'impact au moins à court terme de l'aléa, d'accord? Les adaptations limitent la vulnérabilité ou l'exposition à court terme. Ensuite, on a les deux, donc ça c'est les adaptations dans l'urgence ou qu'on veut pas trop, mais on n'aura pas le choix d'en avoir. Certaines de ces adaptations réactives sont de la maladaptation, on va y revenir, peuvent être de la maladaptation. Ensuite, on a les deux adaptations qu'il faut organiser, c'est les adaptations systémiques et transformationnelles. Le systémique, c'est une forme d'adaptation qui va changer la structure du système, notamment par des investissements importants. C'est comme ça que je le définis, c'est la rénovation thermique, c'est-à-dire on limite structurellement et sur le long terme une caractéristique de vulnérabilité plutôt liée à l'aménagement du territoire. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'adaptation transformationnelle. L'adaptation transformationnelle, elle va plus loin et d'après le Haut Conseil pour le Climat, fait bifurquer le système. C'est ça la thématique qui est mise en exergue. se faire bifurquer le système. Dans le sens, ça change les normes, en plus d'avoir des investissements importants. Ça change les normes sociales liées à un aléa climatique. Par exemple, le fait de tolérer dans le milieu professionnel le fait de venir en short en été, ça c'est une forme d'adaptation transformationnelle. Se doter collectivement d'une culture du risque, c'est-à-dire de savoir comment réagir en cas de risque climatique, c'est une adaptation transformationnelle. Former les gens aux conséquences du changement climatique, c'est une adaptation transformationnelle. Si on revient un peu à la question de la maladaptation, c'est en réalité une façon de c'est-à-dire on, en fait on répond à un aléa climatique, mais en fait on augmente le niveau de risque à court, moyen, long terme. Pourquoi les digues sont une forme de maladaptation? Parce que les digues fournissent d'abord un sentiment de sécurité, c'est-à-dire qu'on met une digue et du coup il y a de plus en plus de personnes qui vont s'installer derrière cette digue là. C'est une forme de maladaptation aussi parce qu'on maîtrise pas l'élévation du niveau de la mer précisément. Et donc, si cette digue sur un événement de submersion marine ou d'intrusion marine forte ou de tempête est submergée, eh ben, elle retient l'eau et donc le risque se matase d'autant plus fort. Et elle a une conséquence aussi, la digue, c'est qu'elle va déplacer le risque. C'est-à-dire que, en fait, bah, vu que l'eau tape sur la digue, bah, elle va pas arrêter de taper, elle va juste coulisser vers l'endroit où il n'y a plus de digue. Donc, vous augmentez le niveau de risque sur la zone d'à côté. Comment on devrait utiliser les digues? L'idée que je peux introduire ici, c'est la notion de trajectoire d'adaptation. Une trajectoire d'adaptation, c'est-à-dire, c'est limiter le risque à court, moyen, long terme. Et donc, dans ce cadre-là, les digues peuvent être utiles pour limiter l'adaptation court terme, notamment, moi, je pense, dans les Outre-mer, pour les habitats, pour les zones très exposées ou pour les zones de mal logement, mais elle doit se conjuguer avec une trajectoire d'adaptation. On doit aller vers quelque chose de résilient, et donc on doit conjuguer ça, par exemple, avec la relocalisation des personnes et le relogement dans des habitats qui sont des habitats décents pour les populations mal logées, d'accord, et initier notamment l'inclusion de solutions fondées sur la nature sur les zones qui vont être submergées pour limiter l'impact sur les zones qui pourraient être submergées. Donc, on rajoute en fait des mangroves, des cordons dunaires, etc. On essaie de limiter l'élévation de la mer. Donc ça, cette notion de trajectoire d'adaptation, elle est importante. Et en général, pour limiter le risque à court terme, bah il nous faut des solutions d'adaptation réactive. Mais si on reste que sur des solutions d'adaptation réactive ou incrémentale, qui est un ensemble du coup d'adaptation réactive, eh ben on va faire de la maladaptation dans tous les sens et on va avoir une adaptation qui va être anarchique dans le sens où si tout le monde s'équipe de climatisation, au final ça va être de climatisation individuelle, tout le monde aura plus froid chez soi, très bien, sauf que les villes vont être encore plus invivables parce que la climatisation et c'est ça sa caractéristique devenue un des fondamentales, c'est un frigo inversé, elle recrache de l'air chaud dehors. Donc c'est une source de chaleur locale qui va alimenter l'effet îlot de chaleur urbain. Donc voilà un peu sur ces éléments un peu conceptuels liés à l'adaptation.
OK, très bien. Si on prend un peu de, disons, de recul, donc tu parlais de l'outre-mer, des forêts, des montagnes, etc. Par où on doit, dans tout système, disons, globalement, par où on doit commencer? Par quoi on doit commencer pour se dire, voilà, bon, là, on comprend que ce que je comprenais par rapport à notre discussion, la majorité de nos actions, c'est les deux premiers types d'adaptation dont tu parlais. Les deux dernières sont pas encore mises en place, ou en tout cas, trop peu. Par où on doit démarrer pour se dire, il faut qu'on enclenche un peu ce cycle d'adaptation plus rapide. Par où on commence?
Bon courage, hein. Pas facile cette question. Donc je vais pas du tout être péremptoire. Moi, je pense que il y a une notion anthropologique de l'adaptation qui est fondamentale à comprendre et je vais essayer de m'appuyer sur une très belle lecture, c'est la lecture que je recommanderais, c'est de ce livre. Bon, pour ceux qui sont en vidéo, vous le voyez, sinon je vais donner le titre, vous inquiétez pas. C'est L'entraide, l'autre loi de la jungle de Pablo Servigne et de Gauthier Chapelle. Donc dans ce livre, c'est un livre sur le monde vivant mais aussi anthropologique qui explique qu'en fait, une des lois de sélection naturelle dans le monde du vivant, mais aussi entre les groupes humains, c'est la notion de l'entraide et d'institutionnalisation de l'entraide. Alors, qu'est-ce que c'est l'entraide? Grosso modo, c'est, d'après Gauthier et Chapelle et Pablo Servigne, on peut un peu modéliser toute société humaine. Bon, il y a tout un tas d'exemples sur le monde vivant qui sont très très intéressants, notamment la question de la symbiose, qui est en fait une entraide entre deux types d'organismes ou plusieurs types d'organismes. Nous sommes aussi des organismes symbiotiques, notre tube digestif, c'est tout un tas d'organismes qui sont en symbiose avec nous, qui profitent de ce qu'on mange, et c'est en retour, ces organismes nous permettent d'être en bonne santé, etc. C'est notre microbiote, par exemple. Mais il y a vraiment des millions et des millions d'exemples, tous plus passionnants les uns que les autres. Dans le cadre des groupes humains, en fait, ce que montrent Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, c'est que qu'ils appellent un cycle pénurie-abondance. Je commence mon cycle. Disons qu'on parte d'un environnement hostile pour plusieurs types de groupes humains. Bah, cet environnement hostile, notamment parce que il y a des dangers dans la nature, etc. Faut plutôt penser aux hommes préhistoriques. Et en fait, les groupes humains qui vont s'en sortir, c'est les groupes qui ont institutionnalisé l'entraide. C'est-à-dire, dans un environnement hostile, c'est les groupes humains qui vont serrer les coudes, qui ont des institutions pour organiser leur entraide, qui vont survivre par rapport à des groupes avec moins de cohésion, avec moins de solidarité. Une fois qu'on a fait cette sélection, en fait, les groupes humains avec de l'entraide vont, par l'entraide, créer de l'innovation. Plus on est nombreux, plus on innove, plus on a d'idées pour résister à un certain nombre de périls et même institutionnaliser des formes qui vont rendre l'environnement moins hostile parce qu'on va s'y adapter. Et en fait, cette institution-là, elle va créer l'abondance. D'accord ? On part d'une pénurie, on arrive à l'abondance grâce à l'entraide. Sauf que cette abondance-là, elle va changer la structure du groupe. Vu que le groupe est plus menacé, il y a d'autres affects qui prennent le pas, et c'est les affects de la concurrence, et ces affects de la concurrence vont saper peu à peu les institutions de l'entraide. Et donc, de fait, on commence à structurer des institutions de la concurrence, qui est pas mauvaise en soi, mais qui va saper une partie des institutions d'entraide, et donc qui va faire que le groupe va être moins résilient face à un choc. Et donc, en cas de choc, le groupe va se disloquer, ou en cas de choc, les institutions de la concurrence vont créer le choc actuel. C'est une image, c'est un petit modèle, mais c'est très intéressant pour moi parce que ça permet de voir nos sociétés humaines comme un balancier, un combat entre deux types d'institutions, nos institutions de l'entraide et nos institutions de la concurrence. Je répète, la concurrence, elle n'est pas un problème en soi. Elle est un problème quand elle vient empiéter sur les structures d'entraide, et elle est un problème lorsqu'elle est trop développée par rapport à l'entraide dans le cadre d'une situation qui va nécessiter de la solidarité. Dans ce cadre-là, on a deux outils. Le premier outil pour institutionnaliser l'entraide, c'est la planification. La planification, elle permet d'organiser l'adaptation systémique. On ne peut pas s'adapter individuellement, faire une adaptation systémique individuelle. Il va falloir qu'il y ait la puissance publique qui investisse beaucoup dans la rénovation thermique des logements, que les collectivités aient les moyens pour réorganiser le zonage des zones littorales, aient les moyens pour investir dans la végétalisation des villes, dans les villes-éponges, dans la renaturation de nos cours d'eau, etc. Mais c'est pas suffisant, parce qu'il faut aussi une adaptation transformationnelle. Et cette adaptation transformationnelle, elle ne peut être, de mon point de vue, conquise que en renforçant nos institutions de l'entraide. Quelles sont nos institutions de l'entraide aujourd'hui? Il y en a une qui est extrêmement importante, c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est une forme de collectivisation de la valeur ajoutée de chacun chacune qui permet en fait de couvrir, de sortir partiellement ou totalement du prisme de la concurrence des choses qu'on considère comme des biens vitaux, comme notre santé. D'accord? On collectivise une partie, on est d'accord pour tous qu'une partie de notre salaire brut net parte dans une grande caisse qui s'appelle les caisses de sécurité sociale pour financer les retraites notamment, mais pour également que nous, si nous allons dans une période de chômage ou payer notre système de santé lorsqu'on va avoir besoin de soins, parce qu'on n'est pas d'accord pour que notre santé soit intégralement dans des institutions de la concurrence et donc marchandisée. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort, je trouve, parce que nos institutions de l'entraide, en fait, elles vont définir nos comportements individuels. Je m'explique. C'est un peu ce que explique aussi Pablo Servigne et Gauthier Chapelle dans le livre. C'est que dans une société qui a institutionnaliser la concurrence comme norme première, les réflexes premiers de chacune et chacun d'entre nous vont être a priori des réflexes de concurrence, c'est-à-dire on va se bagarrer pour la meilleure place, on va essayer de se tirer, je veux un meilleur salaire que mon voisin, je veux une plus belle maison, etc. Et puis le capitalisme fonctionne exactement comme ça, en exacerbant cet affect de concurrence et donc en te donnant le désir de consommer plus ou de t'épanouir par une forme de consommation, d'autant plus que on a aboli, on va dire, toute forme de sens ou de spiritualité ou d'autres formes d'institutions qui sont plus centrées sur le collectif que sur l'individu. D'accord ? Et donc, de ce fait-là, si au contraire, nos institutions premières qui sont les plus développées, ce sont des institutions de l'entraide, eh ben nous, on va avoir des réflexes de solidarité qui vont nous permettre de mieux résister aux crises, aux catastrophes qu'on va se prendre dans la tête. Si je peux donner un exemple, moi qui me tient particulièrement à cœur, parce que je suis franco-marocain, c'est les gestes et le peuple marocain, comment il a réagi par rapport au séisme. Tout le monde est allé aider, il y avait des queues pas possibles pour donner du sang, etc. Et c'était admirable, c'est une vraie, vraie, vraie leçon. Moi, je suis pas certain qu'en France, si il nous arrive quelque chose comme ça, on puisse répondre aussi vite, etc. Je passe une partie des réactions pitoyables qu'il y a eu dans la classe politique française quand le Maroc a dit « bon, on va prendre les aides de l'Espagne et pas de la France ». T'en fiche, hein, ils font ce qu'ils veulent, c'est eux qui sont souverains. Voilà, mais ça, c'est une forme d'institution de l'entraide, parce que les institutions de la concurrence sont peut-être moins développées au Maroc. Il y a une femme plus importante dans les structures familiales. C'est pas pour idéaliser le truc, mais qui permet d'avoir des meilleurs réflexes. En tout cas, moi, c'est un bon exemple que je souhaiterais donner jusqu'à en trouver un meilleur. Et donc, comment on peut institutionnaliser opérationnellement cette entraide? C'est quelque chose qui peut se construire sans l'État ou qui peut se construire avec l'État, mais qui peut se construire à échelle locale. Moi, un exemple que j'adore donner, c'est la question de la sécurité sociale de l'alimentation. La sécurité sociale de l'alimentation, elle marche exactement sur la même logique que la sécurité sociale actuelle, mais elle essaye d'étendre son paradigme à un autre bien commun, qui est l'alimentation. Pourquoi c'est super puissant? Donc, dans sa version nationale, en fait, on aurait toutes et tous sur notre carte vitale ou sur une nouvelle carte vitale, c'est une carte vitale de sécurité sociale de l'alimentation, 150 euros par mois. Ces 150 euros, on ne pourrait le dépenser que chez des producteurs et productrices qui sont conventionnés par des caisses locales de sécurité sociale. Exemple, en fait, vous avez déjà ça sur votre carte vitale, normal, vous ne pouvez dépenser l'argent, la monnaie marquée que vous avez dans votre carte vitale, que chez des médecins conventionnés. Parce qu'ils ont passé des diplômes, parce qu'ils ont fait un bon paquet d'études pour être là devant vous, et donc ils sont compétents, et donc ils ont le droit d'accéder à l'argent de cette sphère marchande, de cette autre sphère économique qui marche sur une logique différente de la marchandise, que de la concurrence. Et donc, on s'est organisé autrement pour sortir la santé de la marchandisation. Comment on fait du coup pour notre sécurité sociale de l'alimentation? On ferait des caisses locales. Ces caisses locales, démocratiquement, on voterait pour un certain nombre de critères de conventionnement, c'est-à-dire je conventionne des producteurs si ils sont à moins de 10, 20, 30 kilomètres de chez moi, si ils ont des types de production qui permettent d'initier ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative, ou des pratiques agroécologiques, de l'agroforesterie qui préserve les haies, qui laisse les terres en jachère, etc. Ça, démocratiquement, on le conventionne. Et donc, dans la caisse sociale de sécurité sociale alimentaire, par exemple, de Paris 12e, moi, chaque mois, je pourrais aller dépenser mes 150 euros chez ces producteurs-là. Et du coup, j'aurai mes produits que j'aurais choisi dont j'aurais choisi les critères, en fait, de ce que je mange. Et du fait, en fait, je crée un marché pour les marginaux. D'accord ? Marginaux, dans le sens marginalisés par la grande distribution. C'est aussi très, très en vogue avec la question des agriculteurs qu'on a connue, en tout cas sur ce mois de février. Voilà, ça permet en fait de créer une alternative au système. Et surtout, et c'est ça qui est très puissant, c'est que ça pousse l'existant à se mettre aux critères de conventionnement. Parce que moi, je pense pas que la grande distribution veut se passer d'un marché où chaque citoyen, citoyenne ait 150 euros sur la carte. Et donc, elle va, de fait, privilégier si elle ne veut pas, en tout cas, être dépassée ou perdre des parts de marché trop importantes, voire mourir, elle va devoir se mettre à ces critères de conventionnement. Et donc ça, c'est une solution qui est, moi, je trouve super, super efficace et avec vraiment beaucoup de potentiel. Et pourquoi j'aime beaucoup cette solution aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre que ça vienne du haut pour être mis en place. Il y a déjà plein d'initiatives, comme par exemple la Marmite Rouge à Paris 12e, qui essaye d'organiser localement ces caisses de sécurité sociale. Il y a pas mal aussi alimentaires. Il y a pas mal aussi de caisses, notamment à Montpellier. Comment ça marche? Ça marche sur une logique de cotisation selon les moyens. Chacun des membres de la caisse met, on va dire, entre 1 et 20 euros et reçoit, c'est l'opération baguette magique, 4-5 baguettes de pain. Et donc, grosso modo, de façon volontaire, les personnes qui ont un peu plus d'argent cotisent un peu plus et les gens qui en ont moins peuvent payer moins et avoir plus que ce qu'elles ont mis en valeur monétaire. Et donc ça, c'est super important parce que ça permet de structurer l'entraide de façon locale. Cette entraide va, en fait, faire développer des institutions, faire naître des institutions de l'entraide un peu partout de façon locale. Et l'autre terme que j'aime bien et que j'aimerais mettre en avant ici, c'est le terme « il faut se préparer pour prendre appui sur les crises ». Quand tu fais face à une crise, quand tu sors d'une crise, en fait, c'est le moment où nos sociétés sont le plus prêtes à changer en profondeur, à bifurquer. Parce qu'on se pose plein de questions, parce que tout est à terre, parce qu'il faut reconstruire. C'est exactement dans ce cadre-là que s'est constituée la sécurité sociale. C'est en 1945, avec Ambroise Croizat et le Conseil national de la résistance, où on a en fait socialisé, créé notre plus puissante institution de l'entraide dans une France ruinée, et on a initié ce qu'on appelle une forme de démocratie sociale. C'est pas un mot galvaudé, démocratie sociale, ça veut dire qu'en fait les caisses de sécurité sociale à Libération ne sont pas gérées par l'État, c'est géré par les travailleuses et les travailleurs eux-mêmes, et c'est géré selon un principe de proportionnalité. Les gens qui prennent les décisions des rémunérations des caisses, qui sont une unification en fait de plein de caisses interprofessionnelles, et ben c'est 3/4 les salariés et 1/4 les membres du patronat. Et donc en fait, bah c'est une forme d'auto-organisation et de ce qu'on appelle démocratie sociale, c'est-à-dire bah démocratiquement on choisit d'organiser toute une sphère de l'économie selon des principes d'intérêt général, et c'est quelque chose que moi je pense pouvait être génial si on pouvait le développer sur l'alimentation. Et une fois qu'on est parti dans cette logique-là, bah c'est interminable, hein. Pourquoi pas en faire une sur le logement, pourquoi ne pas en faire une sur la redirection écologique, c'est-à-dire bah les emplois qu'il faut qu'on transforme, bah pourquoi pas mettre notamment les employés des par exemple des centrales à charbon sous sécurité sociale ou de l'aviation sous sécurité sociale pour les faire transitionner par exemple vers le ferroviaire, une partie du personnel qui fait de la construction neuve vers la rénovation thermique. Il y a plein de choses à imaginer, et donc c'est vraiment une solution moi que je trouve géniale, parce que tu vois ce que ça peut donner au niveau global, tu peux le construire à échelle locale, et ça a des ramifications dans tous les sens. Et moi j'espère que beaucoup de personnes vont travailler sur ces questions dans les mois, années à venir, pour qu'on arrive, qu'on développe cette chose-là et qu'on soit prêt à l'implémenter une fois qu'on aura pris des crises ou que ces solutions feront consensus dans le débat public. Voilà.
Ce qui est sûr, c'est que si on ne pense pas dorénavant à la manière de institutionnaliser tous ces sujets-là, on se retrouvera malheureusement uniquement à faire à faire uniquement des petites digues, on va dire, alors qu'in fine, si on n'a pas préparé l'avenir et les grosses vagues qui vont arriver par la suite, ça suffira pas, disons, pour s'adapter de manière plus globale. Je mettrai bien entendu le lien du livre dans la description, un livre ultra pertinent. D'autant plus pour rapport au sujet qu'on a aujourd'hui, qu'on discute aujourd'hui. Si je reviens juste de manière plus précise, peut-être sur les actions, disons à court terme, là je suis pas dans les questions de fin, mais je veux rester sur l'adaptation, sur les actions à court terme que donc on pourrait mettre en place. Donc on comprend, faut commencer à penser et à travailler en tout cas à cette entraide et à prendre un peu ce recul là pour le mettre un peu dans toutes les pans de la société et de tout ce qu'on peut faire là-dessus. Par rapport à l'adaptation, disons, là on n'est plus dans le réactif, mais les mesures qu'on peut mettre, que il faudrait mettre en place dès maintenant pour augmenter, enfin limiter notre vulnérabilité, d'une part, et je voulais aussi te poser une autre question, parce que les deux sont un peu liés, j'y pense maintenant, donc je te la pose pendant que j'y pense. Quel est le système qui est le plus vulnérable, en fait? Et donc j'imagine que peut-être c'est sur celui-ci, je sais pas si c'est l'eau, enfin tu vois, je parle de système au global, je sais pas si pour toi l'eau égale un système, mais sur quoi on doit travailler en premier peut-être, et comment travailler sur ces sujets-là.
Alors, la question est très large, donc je vais essayer de la réduire. Je vais peut-être commencer par la question la plus, ta deuxième question. Je pense que l'eau est effectivement un enjeu fondamental parce que cette eau, parce que ça va très très vite, beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu, et donc il faut qu'on trouve des modalités d'un meilleur partage de la ressource en eau. Et elle est absolument, c'est la contrainte hydrique est dimensionnante pour tout un tas de pans de notre production. On n'a pas parlé du nucléaire, on n'a pas parlé de la production industrielle, on n'a pas parlé de l'agriculture, mais on la retrouve absolument partout. Et donc il va falloir, donc c'est le système. C'est un système vraiment transversal, si on peut parler de système. Et donc, c'est là où il faut proposer des nouvelles formes d'institutionnalisation, des nouvelles formes de partage à court terme. Ensuite, sur ce qu'il faut faire à court terme, moi, je pense qu'il faut s'adapter aux crises qui vont venir, déjà. Par exemple, moi, je pense, dans toutes les entreprises où il y a, par exemple, du travail en extérieur, il va falloir revoir les horaires de travail. Et peut-être que c'était passé à l'Assemblée nationale il y a pas longtemps, mais une question de droit de retrait des travailleuses et des travailleurs en cas de forte chaleur, parce que l'expérience peut-être la plus partielle, plus partagé du changement climatique dans le monde du travail, ça va être le travail en extérieur et l'impact du changement climatique sur ces conditions de travail. On peut s'inspirer aussi là de plein de pays qui ont du travail en extérieur, notamment plutôt des pays du Maghreb ou du Moyen-Orient, sur comment on s'organise en fait pour le travail en extérieur. Est-ce qu'on travaille de nuit, etc. Il faut trouver des modalités parce qu'on va pas s'en sortir. Et moi, je pense que quelque chose de fondamental, c'est de travailler en priorité sur l'aménagement du territoire et en particulier sur les sols. Les sols sont à la conjonction aussi de tous les sujets. Pourquoi ? Parce que la ressource en eau, la crise de l'eau qu'on connaît, elle n'est pas que due au changement climatique, elle est même minoritairement due au changement climatique. La principe, si on peut le dire comme ça, parce que en fait, c'est nos usages de l'eau qui accélèrent de facto le cycle de l'eau lui-même. En fait, l'eau, ça se pompe. On pompe de l'eau, un peu comme on pompe du pétrole. Et donc, en fait, pomper de l'eau, ça veut dire sortir de l'eau de terre et donc la renvoyer plus vite qu'elle aurait dû aller dans le cycle de l'eau. Et donc, en fait, vous accélérez le cycle de l'eau comme ça. Et vu que vous accélérez le cycle de l'eau, vous mettez de plus en... Et que vous maltraitez vos sols en les imperméabilisant, en mettant des engrais, en mettant des pesticides, en tout cas en tuant la biodiversité des sols, en les tassant, vous empêchez l'infiltration de l'eau dans ces sols-là. Et donc, vous avez deux effets. Vous accélérez le cycle de l'eau, vous en sortez toujours plus, et vous limitez la capacité de remettre cette eau dans les sols. Il y a aussi une question de qualité. C'est-à-dire qu'à force de le sortir, en fait, vous gorgez de tout ce que vous avez mis sur le sol, pesticides, etc. Et donc, elle devient impropre à la consommation de certains écosystèmes, ou à notre consommation à nous, ou à l'irrigation, etc., etc., etc. Donc, la question de l'aménagement des sols, elle est vraiment fondamentale. Il faut absolument tenir, accélérer sur la trajectoire de zéro artificialisation nette et aller vers le zéro artificialisation brute. C'est quoi la différence? Le net, c'est que vous avez le droit à la compensation écologique si vous construisez quelque part. Le zéro artificialisation brute, c'est que vous n'avez pas le droit à la compensation écologique, donc vous arrêtez de construire sur des terres agricoles ou des terres des terres agricoles. Et donc en fait, il faut que vous canalisiez vos besoins de construction sur toutes les friches et que vous revoyez aussi les façons de construire moins, en utilisant les logements vides. Il y a entre 1 et 3 millions de logements vides en France, notamment dans la diagonale du vide. Faut pas l'appeler comme ça, mais en tout cas dans les territoires au centre de la France où il y a une densité de population assez faible. Il faut qu'on arrive à utiliser ces logements-là, notamment en essayant de repeupler et de déconcentrer des villes comme Paris. Il faut du coup travailler à régénérer nos sols pour que l'accélération du cycle de l'eau soit la moins impactante possible. Donc voilà, pour résumer, le système le plus vulnérable, on peut prendre la question de l'eau, parce qu'elle est vraiment transversale à toutes, sur la question de l'adaptation au changement climatique. Et donc, les deux mesures à prendre très rapidement, c'est un, gérer les crises, c'est-à-dire se préparer en fait sur les normes de travail, sur les prochaines années, à ce que vont être les vagues de chaleur, ce que vont être les inondations, etc. Et deux, essayer au maximum de désimperméabiliser les sols pour limiter l'effet îlot de chaleur urbain, pour améliorer l'hydratation des sols et donc limiter la crise de l'eau autant qu'on peut, et limiter les effets des inondations et des précipitations extrêmes sur nos villes en particulier. Voilà, c'est, si je peux prioriser, je prioriserai comme ça, je pense.
Avant de passer aux questions de fin, je voulais j'en parlais avec Oriane Clostre dans un ancien épisode. Je vous mettrai le lien en description, de la biodiversité notamment. Est-ce que ces sujets de biodiversité sont également pris en compte dans je parlais pas du sujet d'adaptation avec Oriane, hein, d'autres sujets plus sur biodiversité, entreprise, etc. Mais vu qu'on parle beaucoup de climat, d'adaptation climatique, au changement climatique, etc. Est-ce que la biodiversité est aussi prise en compte dans ces mesures d'adaptation, dans les perspectives qu'on peut avoir en France ou pas?
Tous ces sujets sont croisés, c'est une question systémique. Notre meilleur allié en fait pour nous adapter, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Donc c'est par exemple les mangroves, les cordons dunaires pour limiter l'élévation du niveau de la mer, c'est renaturer l'hydrologie des cours d'eau, c'est-à-dire remettre les écosystèmes, les roseaux, etc., qui permettent de limiter les débordements de fleuves. C'est remettre de la biodiversité dans la ville, plus d'arbres, plus de végétation, de la biodiversité aussi liée à des écosystèmes aquatiques, des marais urbains, etc. Avoir une forme de traitement de nos cours d'eau qui ne soit pas aveugle à ces questions de biodiversité. Il faut que nos cours d'eau soient les plus diversifiés possibles en termes d'écosystèmes et que nous ne soyons pas dans une trajectoire de prédation sur tous les écosystèmes naturels. Et puis, il faut les aider à s'adapter, ces écosystèmes. Il n'y a pas le choix. Les forêts aussi, c'est absolument fondamental. Genre, si on n'adapte pas correctement nos forêts au changement climatique, là, il y a un exemple qui est vraiment très parlant. L'ONEF travaille sur ce qu'on appelle les forêts mosaïques. Les forêts mosaïques, c'est des forêts où, en fait, on aurait une suite de petits îlots uniformes, mais dans la globalité de la forêt, on aurait des futaies réguliers, des zones qui seraient des zones de test de migration assistée. On mettrait de nouvelles essences, on verrait comment elles se comportent dans le système, des zones de prolifération naturelle, des zones liées pour l'exploitation du bois, etc. Voilà, grosso modo, de faire des forêts les plus biodiverses possibles en faisant des îlots d'écosystèmes homogènes, et en fait par ce biais d'îlots on arrivera à un écosystème qui est résilient, et c'est absolument fondamental puisqu'en fait ça joue sur les trois bouts, hein. Ça joue sur notre la biodiversité, notre atténuation au changement climatique et notre adaptation. Donc effectivement la biodiversité on la retrouve à chaque point de nos questions de risque climatique, d'adaptation, et on la retrouve aussi sur la question des risques climatiques, parce que vous pouvez, quand vous faites du risque climatique, ça s'arrête jamais, parce que vous pouvez faire des risques à 2, 3, 4 bandes, c'est-à-dire les effets du changement climatique sur un écosystème, ou les effets de la destruction de la biodiversité, les effets de la destruction de la biodiversité. Biodiversité est un terme extrêmement large, mais il faudra donner des exemples plus concrets, mais qui va avoir un impact sur la protection, par exemple la destruction de mangroves, qui vont faire que quand les tempêtes ou l'élévation du niveau de la mer vont être plus importantes, et on va ressentir ça d'autant plus importante. Ou bien l'exemple de base, c'est les sols, pesticides, ça va tuer la biodiversité des sols, et donc vous avez moins de rétention, et donc de facto vous avez besoin de plus d'irrigation, et si vous avez besoin de plus d'irrigation, vous avez besoin de plus de prélèvements, de confiscation de la ressource en eau, etc., etc., etc. Mais la biodiversité, elle se retrouve à chaque point de cette question de l'adaptation, et tous les enjeux sont systémiques les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'ils se tiennent au sein d'un même niveau d'enjeu, du même il y a de la cohérence, il faut tout faire en même temps.
Ouais. Du coup ça commence en tout cas à être pris en compte, ces enjeux là que ce soit par rapport au risque climatique dont tu parlais aussi juste avant, c'est-à-dire que c'est également pris en compte, ce qui est plutôt rassurant, même si j'imagine qu'il faut encore aller plus loin dans toute cette prise en compte globale, que ce soit climatique ou biodive. Iliane, je te propose de passer aux questions de fin. Même si tu m'as déjà partagé un contenu, je vais quand même te le redemander, on sait jamais si t'en as un autre ou si tu veux étayer encore un peu plus le propos. Est-ce que t'as un contenu à nous partager, du coup?
Bon, j'ai déjà fait la pub de Babo Servine, Gauthier Chapelle, L'entraide, d'autres lois de la jungle. Touk touk touk, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'intéressant? Moi, je trouve qu'on manque un peu de profondeur. Oh, pas de profondeur, c'est pas ça, mais peut-être un peu d'ouverture philosophique. Moi, je suis un énorme fan d'Albert Camus et donc deux livres de Camus, Le mythe de Sisyphe, puis L'homme révolté. Et bah, on verra. En fait, on voit dans ces deux ouvrages la question de l'absurde. Et comment on sort de cette question de l'absurde avec une autre réponse que le nihilisme, c'est-à-dire en fait réintroduire du sens par l'engagement et l'engagement seulement, et ensuite la question de l'âme révoltée, c'est où, jusqu'où aller dans l'engagement, une espèce de théorie de la modération, etc. Donc ce seraient les deux livres que je recommanderais, parce que ces deux livres qui ont eu beaucoup beaucoup d'impact dans ma vie et qui m'ont permis aussi de structurer un peu une pensée un peu cohérente, à mon sens, sur ces sujets, et de sortir des épisodes un peu qu'on peut tous connaître de déprime, de dépression ou de dooming, hein, si on utilise ce mot-là, lié à des questions qui sont extrêmement difficiles et extrêmement anxiogènes. Et la philosophie aide pour moi à avoir à mieux gérer ces sujets, à mieux comprendre ses émotions, à mieux comprendre les réactions qu'on peut avoir par rapport à un flux d'informations anxiogènes dont on nous submerge en permanence et duquel il faut essayer de limiter l'impact, ouais.
Est-ce que tu as également une action pour agir dès demain dans le bon sens?
Rejoignez une caisse de sécurité sociale alimentaire près de chez vous, créez-la, ce serait ça l'action. Pour y donner un peu plus de profondeur, moi j'ai un peu de mal avec le fait que dans nos milieux, on mette très très souvent en avant les actions individuelles. Bien sûr que c'est absolument fondamental et qu'il le faut, mais ces actions individuelles, c'est pas de l'adaptation au transformationnel. C'est dans le sens, à part que oui, vous inspirez un peu autour de vous et donc vous pouvez faire changer les habitudes de vos proches, mais je pense qu'il y a vraiment un besoin de recréer du collectif autour de ces sujets-là sur des causes données. Donc il y a toutes les associations plus ou moins militantes qui œuvrent, et moi j'encourage à aller voir ce qu'elles font, et parce que vous vous entourez enfin de ce fait de personnes qui réintroduisent du sens en fait au monde et qui vous permettent de du coup d'être de vous redonner de l'énergie. Votre vision du monde, c'est en fait ce que vous voyez autour de vous, et donc si vous voyez des gens pleins d'énergie qui essayent de faire plein de choses, etc., ça vous sort de tout ce flux d'informations anxiogènes qui vous vient par défaut en fait par les chaînes d'information, par Internet, etc. Donc, une action collective, et l'action qui bah, rejoindre une caisse de sécurité sociale alimentaire, comme ça, c'est très concret. Et puis on voit, et puis si c'est bien organisé, et puis il y a capacité d'organiser ça un peu partout en France, parce que c'est très très puissant comme projet. Moi, j'y crois beaucoup.
Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast?
Je ne sais pas si vous avez traité dans ce podcast les questions industrielles, mais moi j'aime beaucoup beaucoup le travail d'Anaïs Vogelis, d'accord?
OK.
Donc moi je recommanderais Anaïs Vogelis parce que ces questions industrielles, on les connaît très mal. On a aussi beaucoup d'a priori ou pas un avis très clair sur ce qu'il y a derrière quand on parle de réindustrialisation, etc. Et Anaïs, c'est quelqu'un qui est extrêmement calé sur ce sujet et qui a une forme de pensée et de cohérence. Et très, très, elle va vous faire point 1, point 2, point 3 à chaque question. Donc, c'est super agréable à écouter. On en ressort plus intelligent. Donc, voilà, moi, je recommanderais Anaïs Vogelis, qui a vraiment un prisme sur les questions industrielles et qui les lie de plus en plus à cette question écologique, question climatique et même un peu d'adaptation probablement. Donc, voilà, c'est Anaïs que je recommanderais.
Trop bien, moi je la contacterai. Merci beaucoup, Iliane, une nouvelle fois pour ton temps. Merci pour tout ce que tu nous as partagé sur l'adaptation. C'est plus clair, heureusement, après notre échange aujourd'hui, et à très bientôt.
À très bientôt, bah merci à toi et j'espère que ça a été utile.
C'est sûr. Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque-là. Et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite!